Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Smart Training Podcast et aujourd'hui on est sur le 18e épisode du Smart Training Podcast, il me semble. Je pensais faire un épisode avec un invité aujourd'hui et finalement ce sera un épisode en solo puisque mon emploi du temps rend la chose compliquée pour le moment et je vais essayer au plus vite de vous proposer des nouveaux épisodes avec des invités. J'ai pas mal d'idées en tête, des personnes hyper intéressantes, passionnantes dans leur domaine et hyper compétentes. Maintenant il faut trouver le temps, mais on va le trouver, on va pas chercher des excuses, il suffit de se prendre le temps d'eux et je vous promets que dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, on va essayer de vous faire des épisodes de fou parce que bien que les épisodes entre vous et moi, c'est intéressant, je pense que le plus intéressant c'est quand on a des personnes qui viennent partager leur expérience et qui viennent nous apporter des choses et en ce sens là, j'ai hâte de vous proposer des épisodes avec des invités de renom ou en tout cas des personnes que je juge hyper intéressantes et passionnantes et qui je pense vous intéresseront également. Aujourd'hui, on va avoir un podcast, en tout cas du coup en solo, sur un thème qui moi me passionne. Alors c'est un thème sur lequel je n'ai pas forcément énormément partagé jusque-là, qui est donc le développement du saut vertical. Dans mon contexte à moi, c'est quelque chose qui est un enjeu un peu principal. C'est un indice de performance qui est quand même assez prégnant en volet dans le sport où j'interviens et dans le basket également, dans une autre mesure, mais c'est aussi important, donc le second sport où j'interviens. Et c'est, en tout cas pour le moment, et c'est vraiment un enjeu pour moi principal et aussi délicat à aborder puisque ça demande, si on cherche à aller un peu loin dans l'individualisation et dans l'analyse de cette capacité de mettre en place des choses quand même plutôt poussées et pas forcément accessibles quand on n'a pas énormément de temps. Mais en tout cas aujourd'hui le but c'est d'essayer de montrer ou en tout cas d'explorer un peu ce thème-là pour vous partager un peu mon avis, mon opinion et aujourd'hui à l'instant T, comment je vois la chose. C'est évident que ça va évoluer dans le temps et qu'il y a des choses que je vais vous partager aujourd'hui, qui risquent de changer dans le futur et d'autres de se pérenniser dans le temps puisque c'est des choses qui semblent plutôt fondamentales, on va dire. Pour revenir du coup sur ce thème-là, du coup, qu'est-ce qu'on va définir comme saut vertical ? En tout cas, qu'est-ce que je vais définir comme saut vertical ? C'est simplement l'habilité motrice à effectuer un saut sur un vecteur vertical, donc ce qu'on va retrouver à l'attaque, au bloc, par exemple au volet. Ça peut être aussi au basket sur un tomahawk ou ce genre de choses. Donc il y a différents types de sauts verticaux. Il peut y avoir un saut vertical à l'arrêt sec, on va dire, avec une simple impulsion vers le haut, comme il peut y avoir une projection horizontale suivie d'un changement de direction, d'un changement de plan, et vers un saut vertical, donc typiquement une attaque au volet où l'athlète va se projeter sur quelques mètres puis ensuite essayer de réutiliser cette énergie horizontale sur un vecteur vertical. Et évidemment c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et après, on va y revenir un peu plus en profondeur, mais il y a tous les types de sauts verticaux qu'on connaît, contre-mouvement jump, squat jump, drop jump suivi d'un saut. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en considération si on souhaite aller sur ce thème-là. Et c'est pour ça que je trouvais ça pertinent, puisqu'aujourd'hui, le développement des qualités de saut est quand même un enjeu principal dans les performances athlétiques. Et quand je dis saut, ça va être broad jump, donc ça va être saut horizontalisé, ça se dit je pense comme verticalisé, donc c'est quand même une habileté motrice qui est hyper importante à développer et qui a un enjeu principal. Et si j'en reviens au volet, c'est un indice de perf prioritaire, on le sait, en plus des facteurs anthropométriques, globalement un athlète qui arrive à sauter plus haut et plus longtemps, c'est-à-dire plus de fois dans le temps, c'est un athlète qui va performer, c'est quelqu'un qui va performer, donc c'est quelqu'un qui pourra plus facilement accéder au très haut niveau ou en tout cas avoir un profil intéressant. Bien qu'il faille d'autres qualités comme la prise d'information, comme des habiletés motrices pour frapper la balle, pour défendre, etc. Mais en tout cas, c'est déjà quelque chose de prioritaire dans le développement athlétique d'un athlète et ça peut s'extrapoler à d'autres sports comme le handball, etc. Et on va rester sur ce genre de sport, mais il y a d'autres sports sur lesquels on pourrait aussi utiliser cette habilité-là. Pour revenir sur le saut vertical, on le sait, il y a énormément d'outils pour le développer. Classiquement, le spécifique reste plus important, donc pour sauter plus haut, il faut sauter, il faut réaliser des sauts spécifiques, et si on parle de volet, c'est évident qu'une pointue, pour donner un exemple concret, si elle souhaite augmenter sa capacité de saut en tant que pointue sur le terrain, et il faut qu'elle saute dans le contexte spécifique, à savoir en tant que pointue sur le terrain, ce qui est l'élément prioritaire et que je pense on oublie parfois, c'est-à-dire accumuler du temps à sauter, ce que font déjà finalement les athlètes en volet, puisque depuis tout jeune, ils se super spécialisent dans ce domaine-là, ils sautent à fond, et arrivé à un certain âge, c'est peut-être plus le levier prioritaire pour pouvoir faire en sorte de continuer à développer cette qualité-là. Mais c'est clair qu'en tout cas, c'est déjà le premier élément. C'est comme quand on dit tu veux sprinter plus vite, bah sprint, apprends à sprinter. Et après, on verra qu'est-ce qu'on peut optimiser. Et c'est un peu la même chose du coup pour le saut vertical. Donc c'est un premier élément à prendre en compte. Et donc finalement, si on va un peu plus loin et qu'on extrapole et qu'on rentre un peu dans le détail, c'est des qualités pliométriques. Si on va un peu plus loin dans. Si on est un peu tatillon, pardon, dans les termes, on peut aussi peut-être parfois parler de pliométrie longue, lente, avec un long temps de contact au sol, et en tout cas des éléments intensifs, des hautes intensités. Donc il y a aussi cet aspect étirement-renvoi, cycle étirement-renvoi, bon, étirement-raccourcissement, plutôt on dit, mais bon, on va parler d'étirement-renvoi, plus orienté, peut-être puissance à certains moments en tout cas. Mais on est sur ce type de sollicitation-là, donc finalement, on le sait, la pliométrie, c'est déjà un premier élément, et si on souhaite travailler sur cette capacité-là, il y a toute une progression, tout un système de progression à mettre en place sur ce domaine de la pliométrie extensive, pliométrie intensive, différents types de pliométrie de plus en plus intenses, de plus en plus sollicitantes pour les tendons. On le sait aujourd'hui, le tendon d'Achille, qui est le tendon le plus gros du corps humain, est aussi le plus bel élastique, si je puis dire, de notre corps humain, et c'est celui qui va, dans beaucoup d'aspects, impacter la performance de par sa raideur sur le saut vertical, en plus des qualités musculaires, des qualités neuromusculaires, si je puis dire, et du tendon rotulien, par exemple. Mais c'est clair que le tendon d'Achille, de par cette pliométrie de cheville extensive, intensive, au-delà de travailler sur sa résilience interne, c'est aussi un élément de performance à prendre en considération pour travailler autour des notions de raideur, par exemple. Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, si on va un peu plus loin en préparation physique, on se rend compte que voilà, c'est la base, une base qui parfois n'est pas forcément explorée de manière profonde. Maintenant, il y a d'autres éléments sur lesquels on peut aller se poser la question, notamment sur des athlètes un peu plus avancés, pour pouvoir essayer de trouver d'autres leviers, puisque finalement, on le sait aujourd'hui, et on pourra en reparler aussi sur d'autres aspects, s'hyper spécialiser, ça rend des adaptations de plus en plus limitées et ça demande du coup d'aller chercher d'autres choses. Et petit aparté, c'est un peu la même chose quand on souhaite suivre par exemple une équipe de volley en saison. On le sait, les athlètes de cette équipe vont être confrontés à une charge globale, une charge tendineuse, une charge de saut, une charge de pliométrie intensive hyper importante. Aussi, c'est pour cela qu'on retrouve beaucoup de pathologies chroniques type tendinopathie. On va pas aller plus loin là-dessus, mais c'est forcément du coup impactant dans la manière dont on suit une équipe. Et peut-être qu'en saison, c'est pas pertinent d'aller en rajouter parce qu'on va essayer plutôt de. Alors, on peut parler d'homéostasie, même si c'est assez remis en cause et qu'il n'y a pas vraiment d'homéostasie, mais en tout cas, de rééquilibrer les sollicitations, faire en sorte que si sur le terrain il y a énormément de charges pliométriques intenses, en dehors, on puisse aller chercher d'autres éléments avec de la pliométrie extensive par exemple, mais également du travail de force à haut niveau et sur des temps longs, ce genre de choses, en tout cas, pour essayer de rééquilibrer, c'est un peu une approche en rapport avec l'approche Strong Fit. Autant pour moi, Julien Pinault, qui a été développé il y a plusieurs années et qui a évolué depuis. Mais en tout cas, c'était cette idée d'essayer de chercher à combler le gap de ce que la discipline met en place pour pouvoir éviter d'avoir des athlètes qui sont potentiellement blessés et potentiellement trop spécialisés. Parce qu'on sait que l'ultra spécialisation, ça amène des carrières plus courtes et ça amène un nombre de blessures plus élevé. Si on en revient aussi à l'éducation durant la jeunesse, c'est aussi un élément sur lequel on peut essayer de s'appuyer. Si on revient un petit peu au thème du saut vertical, parce que c'était comme l'idée du podcast, donc on sait que la pliométrie c'est un outil, et évidemment que si un athlète est en déficit de cette qualité-là, ça va potentiellement être intéressant, mais dans le cadre d'un volleyeur par exemple, c'est peut-être pas le levier prioritaire à aller chercher, et ça nécessite du testing. On le sait aujourd'hui, il y a différents types de sauts qu'on peut utiliser pour tester l'athlète, pour essayer de voir son profil. On va aussi parler vite fait du profil force-vitesse par la suite, mais en tout cas sur les différents tests, on le voit classiquement, hein, tout ce qui va être squat jump, donc qui va plutôt être sur un versant RFD, Right Force Development, donc les qualités concentriques d'un athlète. Moi, ce que je vais appeler l'explosivité, là pareil, toute la nomenclature que j'utilise, elle est propre à ma vision de la chose, et peut-être que d'autres personnes seraient un peu mitigé concernant cela, peut-être qu'il y a d'autres manières de voir la chose. En tout cas, moi, c'est de ma compréhension de tout ce que j'ai vu, c'est comme ça que je l'exprime aujourd'hui. Donc, ce versant RFD sur le squat jump, qui est une première composante des qualités de saut, qu'on va retrouver du coup via des tests de squat jump classique. Ensuite, des tests de CMJ, donc contre-mouvement de jump, qui pour moi vont plus être sur un versant cycle étirement-renvoi, étirement-raccourcissement, vous l'appelez comme vous voulez. Je crois qu'en anglais, ça doit être le Stretch Shortening Cycle, SSC. Donc vous pouvez aller chercher, c'est la traduction anglophone de la chose. Et pour moi, ça va plus être des qualités de puissance qu'on va aller tester. Donc via un test de contre-mouvement de jump classique, tout le monde le connaît aussi. Et ensuite, on a toute la batterie de test de RSI, enfin du drop jump, donc saut en contrebas, avec derrière la volonté d'aller chercher le plus haut possible avec un temps de contact le plus bas possible. Donc orienté drop jump, on peut aussi évaluer sur du death jump avec une flexion de genou qui sera plus importante, du coup forcément une sollicitation qui sera différente. Mais en tout cas sur les qualités de pliométrie, le RSI, de Reactive Strain Index en anglais, c'est ce qui pour moi va évaluer les qualités du coup de pliométrie intensive et qui va me permettre de connaître un petit peu cette capacité de passer de l'excentrique à la concentrique le plus rapidement possible en exprimant des niveaux importants d'intensité. Et forcément, c'est aussi une qualité qui va être évaluée de manière un peu plus différente. Donc ça fait trois qualités différentes et après, enfin qualité, trois versants différents de l'expression des qualités de saut vertical. Et après, on peut parler des qualités d'absorption, des qualités excentriques sur ce RSI et derrière les qualités de RFD interne à ce RSI, à savoir j'arrive à absorber l'énergie rapidement de manière excentrique pour pouvoir derrière la renvoyer sur la face concentrique. Et donc ça, il y a forcément d'autres éléments, d'autres tests, parler des temps de contact à aller évaluer, ce genre de choses pour pouvoir ensuite orienter le travail et forcément se poser la question de est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis dans le faux avec l'athlète. Et ensuite toutes les qualités de force maximale qui vont impacter tous ces éléments-là et de vitesse maximale qui ont également impacté tous ces éléments-là. Et donc là, on est plus sur le profil force-vitesse développé par Morin et Samosino, et qui a depuis plusieurs années maintenant, on va dire, fait consensus. Bon, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, qui a été ultra popularisé et réutilisé sur un vecteur horizontal et vertical. Maintenant, par exemple, si on parle de volet, on le sait, il y a eu des études qui ont été faites. 9 athlètes sur 10 manquent de force max avant de manquer de vitesse max, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est un sport à orientation de vitesse max. Donc forcément, ça impacte la préparation physique derrière et on aurait peut-être des profils à orienter sur un travail de force max, ce qui est tout à fait cohérent. Maintenant, si on cherche à aller dans l'optimisation et l'individualisation, si c'est 9 sur 10, c'est-à-dire qu'il y en a 1 sur 10 qui est orienté sur un autre profil, et du coup, lui, ce serait sur un autre profil qu'il faudrait aller travailler, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération si on souhaite faire le travail de manière qualitative. Mais du coup, et pour donner un exemple opposé, sur le rugby, sur des piliers, des profils très forts, ça a été montré que justement, aller travailler sur un versant vitesse et potentiellement même un versant vitesse max est tellement max qu'on va supprimer une partie du poids de corps en déchargeant avec des traîneaux, avec des luges, etc. Ça permettrait de compléter ce profil pour développer la puissance puisque en fait ces athlètes ont déjà des niveaux de force max tellement élevés que c'est plus le levier prioritaire de travail. Maintenant du coup, là dans le contexte du volet par exemple, c'est pas forcément le cas, mais c'est des choses à tester, sur lesquelles on pourra revenir également. Mais voilà un petit peu tous les éléments sur lesquels on peut peut-être se poser des questions. Et pour pouvoir derrière essayer d'avoir un profil le plus complet possible, il suffit de se demander également de quoi a besoin cet athlète. Et je vais donner un exemple assez concret qui j'espère vous parlera un peu plus. Si je teste un athlète, maintenant aujourd'hui il y a des outils qui permettent de travailler sur cette chose-là, différentes applications, MyJump notamment, après des outils un peu plus chers, Bosco, Opto, plateforme de force, etc., qui permettront d'avoir des données plus ou moins fiables, mais en tout cas qui permettront d'aller un peu plus loin que simplement l'œil, même si évidemment si on réfléchit juste simplement par rapport à un rapport entre un CMJ, un squat jump, un RSI, enfin un drop jump, on peut se poser la question de savoir sur quoi orienter mon athlète. Et je pense que un entraîneur qui est un peu expérimenté peut voir les différences, soit en fonction de ce que dit aujourd'hui la science, ce que dit les anecdotes de terrain, donc les entraîneurs expérimentés, et aussi l'œil qui s'aiguise athlète après athlète pour pouvoir orienter le travail de manière un peu plus efficace. Mais finalement, le testing, ça permet quand même de confirmer des trends, enfin des orientations, et être sûr de ce qu'on fait pour pas naviguer à l'aveugle, et c'est quelque chose qui pour moi est fondamental. Donc si on revient un petit peu sur une analyse plus précise, on a des outils qui vont nous permettre de savoir un petit peu dans quelle mesure on pourrait aller travailler sur l'athlète. Et il y a aussi un autre élément qu'on n'a pas cité, mais ça va être la coordination bas du corps, haut du corps, puisqu'on sait qu'un athlète qui arrive à utiliser son haut du corps de manière efficace va aussi pouvoir exprimer plus de qualité athlétique sur le saut vertical, et donc c'est quelque chose à aller chercher. Mais donc globalement, si aujourd'hui je me pose la question de savoir comment faire sauter plus haut mon athlète, je vais effectuer ces tests là, je vais avoir des données, et qui vont me donner des indications. Peut-être que ce sera un déficit de force max, et donc finalement, il faudra aller travailler sur ce versant-là. De manière assez globale, moi, je pense que le travail de force max est intéressant pour tout le monde. Alors, on en revient hors contexte spécifique, par exemple les piliers au rugby, mais dans le contexte du volley où c'est hyper verticalisé, et dans le basket souvent aussi, même si peut-être que sur des profils des intérieurs, par exemple, ce serait plus pertinent d'aller travailler autrement, même si je pense que la culture prépa physique dans ces sports-là est tellement moindre qu'au rugby que finalement il y a aussi du travail à faire sur l'aspect force max. Néanmoins, voilà, il y a cette petite population où il faudrait faire attention, mais sur le reste, quand on est sûr de devoir aller travailler la force max, ce sera toujours intéressant, même au niveau de la préhab, du travail de prévention, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas pour faire en sorte que l'athlète soit résilient au maximum. Et la force max, c'est quand même un outil hyper intéressant pour ça. Mais en tout cas, peut-être que la force max, ce sera un élément intéressant à développer. Peut-être que ce sera plus les qualités explosives, donc de RFD, qui seront intéressantes à développer en fonction du profil. Si on a un athlète qui est, on va dire, hyper élastique, même si ça ne veut pas dire grand-chose, qui est hyper orienté RSI et peut-être même CMJ, peut-être que lui, la pente, c'est ce qu'il faut développer. Et donc le RFD, c'est l'élément principal. Et en relation avec ça, on va aller mettre en place une programmation à partir de cette donnée-là. Et là, on peut utiliser des méthodes hyper classiques, du statodynamique, du pin squat, des setups qui vont nous demander d'avoir une impulse, enfin une impulse, c'est en anglais, désolé, mais en tout cas, cette notion de concentrique, pardon, et de pousser fort vite sur cette phase concentrique qui permettra de développer le RFD. Et après, il y a plein d'outils, plein de méthodologies différentes sur lesquelles on ne va pas revenir. Ça, c'est à chacun sa sensibilité. Mais en tout cas, c'est cette question-là qui, je pense, est fondamentale. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler le resto tout, hein. Je ne pense pas que être sur un unique versant est la solution. Mais en tout cas, se focaliser sur, par exemple, ces blocs de performance, sur cet aspect-là, c'est peut-être quelque chose de pertinent. À l'inverse, si on a un profil qui est hyper orienté force explosive, peut-être que sur cette personne, un travail élastique serait plus pertinent. De la coordination bas du corps, haut du corps, pardon, peut-être que c'est un élément à travailler également, apprendre à sauter au final, et puis après les qualités de RSI, les qualités, enfin voilà, faut orienter par rapport au profil, donc plutôt RSI, plutôt puissance, plutôt force explosive, plutôt force max, plutôt vitesse max, voilà, il y a différents leviers, et en fonction du profil qu'on va recevoir, et bah, orienter le travail pour faire en sorte qu'on soit pas sur des choses que tout le monde fait, parce que tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Après, il est évident qu'il y a des leviers, notamment chez les jeunes, si on revient à la notion d'adaptabilité, qui pourront être utilisés et d'autres qui pourront ne pas l'être, on va dire. On pourra peut-être se passer de faire certaines méthodos très avancées, puisqu'on le sait, sur un athlète très jeune, peu importe ce qu'on va faire, finalement, il va progresser sur les sauts verticaux, sur les qualités athlétiques, parce qu'en fait, il n'aura jamais rien fait avant. Et à part sauter, finalement, à part le sport pur, il n'aura pas fait beaucoup de choses en ce sens, et même le sport pur n'aura pas été tant que ça pratiqué. Donc finalement, même aller sur de l'hypertrophie, ça améliorera ses qualités de saut vertical. Donc il y a aussi un contexte à prendre en compte, et si on extrapole un peu, même sur un public d'experts, par exemple d'athlètes professionnels, peut-être que toutes ces questions-là n'ont pas lieu d'être si l'élément principal, l'objectif à court terme, c'est de faire en sorte que l'athlète n'ait plus de tendinopathie, rotulienne par exemple, et donc de faire en sorte que son genou soit en meilleure santé pour exprimer au mieux son potentiel actuel. Parce qu'un athlète qui a un potentiel défini à un stade et qui est inhibé par une douleur, et bah, s'il est qu'à 70% de son potentiel, il suffira de limiter cette inhibition pour revenir à 100% de ce potentiel-là, sans se poser la question de savoir est-ce que je dois aller développer ces qualités de RFD. Peut-être que lui, c'est simplement essayer de réorganiser la matrice de collagène intra-tendineuse qui permettra de faire en sorte qu'il arrive à exprimer son potentiel à 100% et que par la suite, peut-être revenir sur un profil de développement plus intéressant. Mais c'est peut-être pas l'enjeu prioritaire. Donc il y a ça à prendre en considération. Et dernièrement, je donne l'exemple du volley. Quand on a une saison avec énormément de sauts, énormément de sollicitations pliométriques à haute intensité, si un athlète a un profil orienté RFD, force max, et par contre sur des aspects tendineux, les aspects de raideur tendineuse, enfin les aspects pliométriques, pardon, on est un peu dans le dur, c'est pas un athlète qui est hyper développé. Il faudra se poser la question de savoir est-ce que c'est le moment pour aller lui mettre une grosse charge alors qu'il a déjà plusieurs matchs dans la semaine ou plusieurs entraînements et énormément de sollicitations pliométriques à ce moment-là de la saison. Peut-être que c'est pas le moment. Donc finalement, peut-être que c'est sur la off-season suivante qu'il faudra aller taffer ça. On le sait, c'est pas forcément facile dans le sport professionnel parce que les athlètes vont et partent à droite à gauche. Après, c'est à l'athlète de se prendre en main également, hein. Je pense que le premier concerné, c'est l'athlète. C'est à lui de savoir s'il veut progresser ou pas. Mais on peut au moins lui proposer les outils, lui dire, moi, si j'étais toi, je ferais ça pendant la off-season parce que, objectivement, c'est ce que tu as besoin. On peut pas le faire maintenant parce qu'on risque de surcharger et de faire apparaître des douleurs chroniques. Par contre, on pourra essayer de le faire plus tard pour faire en sorte que tu développes cet élément-là parce que c'est ce qui te manque aujourd'hui. On peut peut-être le faire de manière assez. Essayer de mettre une dose minimale effective pour que ça avance en ce sens-là, même pendant la saison. Mais on va dire qu'il faut faire attention. Parce qu'on le sait, c'est aussi un enjeu principal, garder les athlètes en bonne santé, health à fond. Et je pense que ça, c'est. Tout le monde est d'accord pour le dire, c'est l'enjeu prioritaire en sport de haut niveau, ou même dans la vie en général au final. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments déjà énoncés, et il faut voir la chose, je pense, de ce spectre-là, essayer d'aller un peu plus loin que simplement se poser la question de qu'est-ce que je vais utiliser comme méthode, on va aller faire du développement de la puissance classiquement, on va faire du statodynamique, on va faire des choses qui, sur le papier, vont développer les qualités d'explosivité, vont développer les qualités de puissance, vont développer. Ça, on ne le remet pas en cause, hein. Et évidemment que c'est vrai. Mais si on cherche à aller un peu plus loin, être un peu plus précis dans la demande, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir vers quoi tendre avec chaque athlète. Et pour moi, c'est là tout l'enjeu, pardon, du travail d'un préparateur physique, s'il a le temps. Et c'est pour ça que je prêche pour avoir, par exemple, un préparateur physique pour une équipe de 10 athlètes, ça me paraît. Le maximum si on veut faire les choses bien, parce que entre le travail de prévention, enfin de préhab et le travail health que je vais l'appeler, et le travail de développement, il y a énormément de données. Si on souhaite en plus après travailler sur l'environnement de performance, optimiser l'entraînement invisible, en faisant les choses bien, pas simplement en faisant, je donne l'exemple du bain froid, encore une fois, mais il suffit pas de dire on va faire du bain froid et allez, j'ai optimisé le projet de performance au niveau récupération. Pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut aller chercher ce que dit la science pour mettre des protocoles pertinents, pour savoir à qui s'adresse le bain froid et pour quoi, comment, on en revient au même point, mais on le sait aujourd'hui, le froid, ça, c'est super intéressant pour plein d'aspects, peut-être pour des aspects immunitaires, pour des aspects de résilience, pour un travail psycho en plus du physio, mais on le sait aussi, ça a des aspects négatifs sur les aspects inflammatoires, alors que l'inflammation est parfois hyper intéressante, parfois non, mais parfois hyper intéressante aussi, notamment avec le développement de l'hormone de croissance dans cette période-là, growth hormone. Donc forcément, c'est aussi ça pour moi l'intérêt du préparateur physique, c'est de se poser les bonnes questions et mettre en place le protocole le plus pertinent. Et c'est aussi, on en avait déjà parlé, mais je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je pense que c'est intéressant. Se poser la question de l'individualisation, c'est aussi ça. J'ai une athlète qui a une tendinopathie, on veut essayer d'optimiser sa récupération. Ok, je vais peut-être aller lui proposer une supplémentation en vitamine C, en plus d'un protocole pertinent et adapté, et avec un système de progression adapté sur son genou si c'est une tendinopathie rotulienne, avec des sollicitations pour essayer de réorganiser la matrice de collagène et faire en sorte que le tendon soit plus résilient et puisse faire face aux demandes pliométriques du terrain. Mais en parallèle, je vais essayer d'éviter qu'elle aille dans le bain froid sur les sessions post-préhab. Je vais lui proposer une alimentation plus riche en protéines, ou en tout cas l'orienter vers ça avec un aminogramme complet. Je vais essayer d'optimiser son sommeil, d'optimiser tous les éléments à côté qui peuvent l'être, travailler sur les aspects psychos peut-être en parallèle. Pour moi, c'est ça l'individualisation, et ça dépasse plus que se dire, enfin c'est tout autre chose que simplement se dire ok, mon but c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle développe ses qualités de volley. Moi là, on va lui faire faire du statodynamique parce que je sais que le volley c'est un sport explosif et il faut qu'il soit explosif. Oui, mais non en fait, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, l'individu dans son ensemble, et surtout la performance et l'environnement de performance dans son ensemble, ça me paraît être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe que ça. Et c'est aussi ça qui est passionnant, parce que sinon on ferait tous la même chose et on aurait tous la même orientation. Et je pense que c'est des choses qu'on doit aller explorer. Et pour finaliser un petit peu sur l'aspect profil de saut, il y a toute cette phase excentrique aussi, sur la phase de réception après un saut, sur la phase d'impulsion. C'est des choses qui sont intéressantes à prendre en considération, et ça vient en lien avec tous ces éléments-là. Et je pense que du coup, il y a pas qu'une manière de faire évidemment, mais en tout cas, il y a des trends à aller observer pour pouvoir comprendre l'athlète et peut-être même dans une logique de prévention. Et là, pour en avoir discuté avec pas mal de gars, notamment mon collègue Sofiane, prépa sur l'équipe de France de ski, il y a des choses à aller voir. Peut-être que c'est que anecdotique pour le moment, mais moi je me pose la question de savoir comment on peut déjà prédéfinir aussi le risque de blessure, en tout cas le risque de blessure musculaire et tendineuse, et ou tendineuse, ou plutôt VS tendineuse, sur des profils de saut différents, à savoir, ok, j'ai un profil plus orienté sur cet aspect-là, plus RFD, est-ce que j'ai plus de chances de me blesser au niveau tendineux qu'un athlète qui a un profil orienté sur les aspects RSI, et inversement, si je suis plus RSI, est-ce que j'ai plus de chances de me péter sur le musculaire? Et inversement. Et donc ça, c'est des questions qui sont hyper intéressantes, puisqu'on le voit, il y a des athlètes, il y a juste à voir à l'œil, c'est des athlètes qui sont hyper musculeux, potentiellement qui se blessent plus au niveau musculaire, ou pas. J'ai pas de réponse définie aujourd'hui, mais j'essaye moi, de par le terrain, d'observer ces choses-là pour essayer derrière d'adapter les contenus, pour essayer aussi de faire de la préhab, parce évidemment qu'on peut pas tout prévenir, mais essayer de comprendre comment l'athlète s'organise aujourd'hui et comment il fait face aux contraintes pour essayer de faire en sorte d'avoir une programmation qui est adaptée. On en revient au même point, après ça demande du temps, mais si je donne un exemple concret, là j'ai le cas d'un athlète qui est qui a des pathologies tendineuses récurrentes et qui a un profil très axé force et potentiellement pas forcément, peut-être RFD, mais vraiment pas RSI, et peut-être puissance, on va dire, mais pas trop développée au niveau des qualités pliométriques. Et par contre, elle présente des pathologies au niveau tendineux, ce qui est important. Et j'aurais pu me dire, ok, bah, c'est peut-être qu'il y a un lien entre ces choses-là. Et peut-être que c'est cette progression sur la plio qui lui ferait vraiment du bien. Mais en parallèle, j'ai aussi des athlètes qui ont des énormes qualités pliométriques et qui ont aussi ces douleurs-là. Donc, il n'y a pas de vérité. Maintenant, je pense que à force de répétition, on peut trouver des trends qui vont nous permettre de mieux comprendre l'athlète très rapidement et de mieux orienter. Évidemment que ça demande aussi une compréhension du passif de l'athlète et des qualités générales, puisqu'on a des athlètes, et j'ai l'exemple d'un athlète qui a des qualités pliométriques monstrueuses, mais en parallèle, il a aussi des qualités musculaires monstrueuses. C'est un profil assez complet, tu vois, des niveaux de force assez élevés, des qualités de RSI assez hautes, un profil RFD aussi très intéressant. Et finalement, cette athlète-là, c'est ce genre d'athlète-là qui ont souvent aussi pas mal de petits pépins, pas mal de petits bobos. Donc c'est. J'ai pas de. Je pense que c'est individualisé, mais c'est intéressant d'aller tester pour pouvoir orienter derrière le travail. Et si on doit finir sur questionnement-là, sur l'aspect profil de saut, pardon, évidemment qu'il y a des choses qu'on peut faire à tout le monde. Le travail de force max, c'est adapté à tout le monde, mais c'est pareil. On va aller faire un squat. Est-ce qu'on le fait en iso, half squat, overcoming? Est-ce qu'on fait un squat complet? Est-ce qu'on fait de l'excentrique? Voilà, il y a plein de données à aller tester, et je pense que ça dépend du profil de l'athlète, de son passif et des leviers qui vous semblent le plus pertinent à l'instant T, tout en prenant en compte l'environnement, si c'est en pleine saison, si c'est en off-season, est-ce que c'est attractif pour l'athlète, est-ce qu'il a les moyens au niveau mobilité pour pouvoir le faire. Voilà, c'est tellement plus compliqué que simplement dire on fait ça, mais c'est tout ça l'enjeu, et c'est pour ça que souvent je le dis et je me répète, pour moi la prépa physique c'est pas quelque chose qui est sport spécifique. C'est sollicitation et environnement spécifique, mais c'est surtout individu spécifique, pardon. On voit des fois sport spécifique training, ce genre de choses. Pour moi, la priorité, c'est individu training spécifique, à savoir qu'est-ce que je fais par rapport à mon individu et cet individu dans son environnement de performance à l'instant T, par rapport à son âge, son passif, le style de jeu dans lequel il évolue, son poste, évidemment son sport, mais c'est l'individu qui prime avant tout. Puisque des qualités sur le même poste peuvent être totalement différentes. Et si je dis que je vais travailler au volet, par exemple, la récep attaque de la même manière sur les 3 joueuses qui sont dans mon effectif ou les 4 joueuses, parce que on est sur des attaquantes qui, du coup, ont les mêmes demandes sur le terrain, mais en fait, j'en ai une qui est hyper orientée RFD, j'en ai une qui est hyper orientée RSI. Et si je fais la même chose, alors peut-être que je vais développer les deux, et il y en a une, ce sera 25%, je dis des chiffres arbitraires, mais 25% de développement, et l'autre, ce sera que 12%, parce qu'en fait, elle, ce qu'il lui fallait, c'était plus un travail opposé. Et si j'avais fait l'opposé, pour les deux, ça aurait été l'inverse, l'autre aurait plus progressé. Et donc, finalement, c'est aussi ça, je pense, savoir individualiser. Mais encore une fois, ça demande tellement de temps que. On n'a pas tous accès à ça. Après, à l'œil, on peut le voir, mais en tout cas, c'est des indicateurs qui, pour moi, montrent une nouvelle fois l'importance de l'individualisation et du temps qu'on accorde à chaque athlète. C'est pareil, les séances collectives, je pense que c'est une grosse limite parce qu'on est toujours limité par la structure, à part aux États-Unis, dans les grosses universités ou en NBA, mais on n'a pas le matos qu'il nous faut. Si on fait des séances à 10, c'est qu'elles ont toutes des programmes, tous les athlètes ont des programmes différents. C'est vite compliqué et pourtant, ce serait la solution si on souhaitait aller loin dans le développement des qualités athlétiques et la mitigation du risque de blessure. En tout cas, essayer de devenir un athlète plus résilient, plus fort, plus performant dans sa discipline. Et c'est aussi pour moi les temps de préparation physique en individuel ou en small group, notamment dans le sport professionnel, un vrai moment de partage et d'échange et d'éducation au bon comportement. Parce que quand on est en small group, on passe tout son temps avec l'athlète, on est précis sur ce qu'on lui demande et on peut échanger aussi parce qu'il y a beaucoup de temps de récup. Et c'est le moment d'échanger sur l'entraînement invisible, et essayer de familiariser l'athlète à tous ces éléments-là. Alors que quand on est en groupe global, évidemment, il y a des temps qui sont intéressants en groupe global, hein. Par exemple, sur du travail de puissance, quand on veut qu'il y ait une émulation dans le groupe, que les gars aillent chercher ou les filles aillent chercher des PR, etc. C'est sûr que si on est à 2 ou 3, c'est un peu plus dur, surtout quand il y a la fatigue qui s'accumule, etc. Du coup, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux, mais c'est vrai que si on va que sur des full sessions avec tout un effectif, ça peut être un peu compliqué parce que les athlètes vont pas forcément se souvenir de tous les exercices, les intentions sont pas souvent les meilleures parce que quoi qu'on en dise, un athlète qui est un peu laissé tout seul dans sa séance parce qu'il y a 12 autres personnes ou 10 à côté ou même moins, hein, 6, et ben ça peut vite être compliqué alors que quand on est sur un mix entre small group et là, on va pouvoir aller un peu plus loin et tout, individualiser à fond et à côté trouver des moments d'émulation sur du travail voilà, de PR, de puissance max, de peut-être veille de mat, des choses où on va demander des patterns plus généraux à tout le monde. Dans cette objectif de peut-être potentiation neuro, etc. Là, on risque de moins se tromper, ce sera plus simple à mettre en place, et en plus, l'émulation sera positive. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un temps pour tout, mais c'est quelque chose que je voulais aussi mettre en avant sur ce podcast-là, et je pense que vous vous y retrouvez. En tout cas, je pense que ça vous intéressera tout autant que le profil de saut. Moi, je me suis un peu éparpillé. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu pour revenir sur ce profil de saut-là, pour montrer qu'il y a quand même pas mal d'outils aujourd'hui, mais que tous ces outils doivent être au service de l'individu et pas simplement de l'outil. On ne travaille pas pour travailler avec des outils parce que ça nous fait plaisir, on travaille avec des outils parce que l'athlète en a besoin. Et c'est pareil quand on débat sur l'haltéro, sur tous ces genres de choses. Ok, c'est top, mais est-ce que c'est le besoin d'athlète aujourd'hui? Peut-être que l'haltéro sur un départ au sol sera moins pertinent pour un athlète qui a besoin de développement de sa puissance à partir des hanches que un départ mi-cuisse avec un engagement des hanches sur un cycle étirement-raccourcissement qui sera plus spécifique aux besoins de l'athlète à ce moment-là. Et en parallèle, peut-être qu'un athlète qui du coup aurait besoin peut-être de ce travail de pliométrie, mais qui a des pathologies chroniques type tendinopathie rotulienne, et ben on va quand même utiliser l'haltéro parce que c'est un autre levier qui correspondra peut-être un petit peu moins à ce qu'elle a besoin ou ce qu'il a besoin à l'instant T, mais qui sera le plus accessible pour pas entacher d'autres qualités, à savoir les qualités de résilience. Donc voilà, tout est question de timing, et je pense que c'est compliqué de juger quand on voit le travail de quelqu'un, sauf si on trouve qu'il sort des fondamentaux, mais il faut prendre un peu de recul et se poser la question de se dire, ok, pourquoi on fait ça? Et parfois, on va voir des choses qui sont faites, on n'a pas forcément la compréhension, et quand on va creuser un peu, on peut comprendre un peu mieux. Maintenant, c'est évident que si on voit des choses aberrantes, et même si on n'échange pas avec la personne, on peut se dire qu'il n'y a pas trop de réflexion derrière. Mais j'ose espérer que c'est de plus en plus rare dans le sport de haut niveau et dans le sport santé également, parce que c'est tout aussi important le sport santé. Et je pense que le sport de haut niveau, c'est du sport santé en priorité, simplement adapté à des profils différents. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous y verrez, pas forcément plus clair, mais en tout cas, vous verrez des éléments de réflexion. N'hésitez pas à revenir vers moi pour échanger avec moi là-dessus, parce que bon, en une demi-heure, c'est compliqué d'extrapoler, d'aller chercher vraiment loin dans les explications, surtout sous format podcast, mais c'est toujours intéressant de partager, donc on n'hésite pas à revenir vers moi. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous si vous avez trouvé qu'il y a des éléments pertinents. Je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent intéresser des athlètes, à savoir comment comprendre leur profil de saut pour mieux l'orienter, parce que comprendre, et comme dit K-Suisse, Kevin, qui est une grosse source d'inspiration pour moi, la compréhension précède l'exécution, et c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, à prendre en considération quand on travaille avec des athlètes qui ont des besoins de sauts verticaux, et notamment des athlètes avancés, quand on arrive sur du 22, 24, 26, 28 ans, plutôt 26, 28 ans. Il y a des pathologies parfois, mais quand l'athlète est en santé, il y a des vrais leviers à aller utiliser pour justement casser ces gaps, casser ces murs un petit peu de l'adaptabilité et aller chercher un peu plus loin. C'est évident que sur un athlète, et on en revient au même point, et là je citerai Jérôme Simian, qui paraît pour moi un goat dans le milieu, c'est pas forcément la peine d'aller se prendre trop la tête avec un athlète qui a 18 ans, qui a jamais fait de plio réellement, qui a jamais fait d'éducation à la préparation physique. Là, si je vois un truc contrast training, French contrast training, triphasic méthode, de Carl Dietz, etc. Je trouve que c'est super, mais c'est peut-être pas adapté au contexte, donc c'est aussi ça à prendre en considération. Voyons l'athlète en premier et adaptons par rapport à tous les éléments qu'on peut tester ensuite. C'est clair qu'un athlète de 16 ans, si on lui fait faire son profil de saut et qu'on voit qu'il manque de RFD, on va peut-être se dire, allez, on va foutre du pin squat à tir larigot, alors qu'en fait, ok, il manque de RFD, mais en fait, il manque de tout. Donc, il y a aussi à prendre en perspective ça. C'est pas que des ratios, c'est aussi une donnée plus pure où on se dit, ok, il a besoin de ça, mais en vrai, il a besoin de tout aujourd'hui. Donc, là, c'est peut-être des comparaisons entre les athlètes, voire des standards à certains niveaux. Voilà, des choses qui sont pas forcément pertinentes dans d'autres contextes, mais il y a des choses à aller explorer en tout cas, et je pense qu'il faut se poser des bonnes questions si on souhaite vraiment. Comment dire, optimiser le profil d'un athlète à 100%. Parce que c'est vraiment ça pour moi le haut niveau. C'est essayer de faire en sorte que l'athlète exprime toutes ses qualités à 100% et qu'on ne laisse pas un potentiel inexploré pour rien, alors qu'en fait, on avait la potentialité si on avait eu du temps et des moyens et de la compréhension, le knowledge, des connaissances pour faire ça. Je pense que c'est le plus important. Voilà. Alors, n'hésitez pas à partager le podcast s'il vous a plu. On se revoit très très vite pour un prochain podcast que j'espère passionnant et j'espère cette fois avec un invité. On s'y est au courant et à plus. Ciao.